partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, bon vendredi, nous sommes le 31 juillet de l'an 2020. Ça fait drôle de dire ça, de l'an 2020, ça fait comme historique, mais c'est 2020 la façon moderne de dire les choses. Écoutez, moi j'ai des inquiétudes à bien des niveaux, puis je vais en parler tout au cours de l'émission. Mais j'ai vu l'Ontario hier qui présentait son plan de retour à l'école. Je ne qualifie pas la qualité du plan, c'est pas ça mon idée. J'essaie pas de faire des comparaisons entre le Québec et l'Ontario, absolument pas. Si on fait des erreurs et qui inquiètent des parents, c'est une chose, c'est leur affaire, c'est leur problème. J'en suis pas là. Où j'en suis cependant, c'est que depuis plusieurs jours, nous tentons d'avoir des informations de la part du gouvernement en cette matière du retour à l'école qui se fait dans les 4 semaines à venir. C'est zéro open bar, comme on dit en bon québécois. Il n'y a pas de réponse. La seule que nous avons eue par un petit texto, c'est que le plan de rentrée scolaire de septembre 2020 demeure le même et nous avons en main ce même plan scolaire. La réalité, à mon sens, c'est que les conditions de juin dernier, où on a établi ce plan-là, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a des scientifiques qui nous disent que les jeunes sont plus contagieux que l'on ne pensait initialement, qu'il y a une charge virale plus importante chez les jeunes. On voit dans les résultats des tests que nous faisons à une hauteur à cela très intéressante, on parle de 17 000 tests quotidiens, je trouve que c'est une bonne chose, mais on y dénombre une poussée des groupes d'âge de 15 à 35 ans. On commence à ressembler au secondaire puis au collégial là, dans ces catégories d'âge-là, une augmentation. Donc, est-ce que véritablement le plan de juin dernier correspond à la réalité d'aujourd'hui? C'est ma question et je pense que j'ai pas d'enfants qui vont à l'école. J'ai des petits-enfants qui y vont cependant, mais je suis juste un grand-père. Mais il y a des parents qui doivent composer avec ça. Qu'est-ce qu'on fait, le matériel scolaire? Et là, je regardais le plan, justement, de septembre, où là, on parle d'une possible éventuelle refermeture des écoles dans le plan. C'est une hypothèse possible. Et j'y trouve des choses assez particulières. Une prestation de travail complète en télétravail sera exigée pour tout le personnel scolaire, sauf exception, s'il y avait, évidemment, une refermeture des écoles. Il y a une deuxième pandémie aussi qui s'en vient. Les scientifiques nous le disent. Elle va être contrôlée davantage. Elle ne sera pas aussi pire que ce que l'on a connu, espère-t-on. Mais il demeure un fait. Ça aussi, c'est un élément qui fait en sorte qu'on a le droit de se gratter la tête. Parce que je me souviens que le télé-école qui s'est faite, ça a été un trouble effarant dans les familles. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a le moyen d'organiser la tablette familiale, parce que pas tous les enfants en ont une à eux personnellement, d'organiser la tablette familiale alors que le papa ou la maman font du télétravail. Mais là, il y a le cours de la petite, puis là, il y a le cours du plus vieux. Puis écoutez, là, je suis pas sûr qu'on soit prêt à ça. Je ne le sais pas. Je m'interroge. On va aller parler à une autre qui n'est pas en vacances. Hier, c'était Mme Thériault qui n'était pas en vacances. Là, c'est elle qui n'est pas en vacances. Mara Risky, qui est députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Vous avez toute la place, Mme Risky, les libéraux, présentement, pour faire des commentaires. Le gouvernement est absent.
Bonjour, M. Mongrain.
Bonjour.
Mais en fait, je ne suis pas uniquement en mode commentaire. Bien au contraire, je peux vous dire que depuis le mois de mars, on est en mode solution. Depuis le mois de mars, mes collègues Jennifer McCarron, Francine Charbonneau, ainsi que Véronique Yvon et Christine Ladry, on s'est tout de suite mise en mode proposition et solution envers le ministre de l'Éducation, parce qu'on a bien compris qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal, puis on comprenait que c'était normal qu'il y ait des ajustements, puis qu'on aille par essai-erreur au mois de mars et au mois d'avril. Par contre, ce que nous, aujourd'hui, on décrit, c'est que là, on n'a plus le temps d'improviser. On a appris de la première vague. Est-ce que nous pouvons nous mettre, tout le monde ensemble, à mettre des solutions de l'avant? Par exemple, moi, je ne considère pas le plan, entre guillemets, qui a été déposé par le ministre Roberge au mois de juin, comme un plan, c'est un apron. Ça nous dit juste, par exemple, qu'on va mettre les enfants dans des bulles imaginaires de 6 enfants par bulle. Et que si jamais il y avait une pandémie, on retourne, il y aurait une prestation de service via là, à distance. Mais, ouais. Télé, mais écoutez, là, est-ce qu'on peut être plus sérieux? Si jamais, par exemple, il y a un enfant qui est contaminé, c'est quoi le protocole d'urgence? Est-ce normal que le ministre de l'Éducation a demandé au centre de services scolaires que le protocole d'urgence soit déposé le 15 septembre, c'est-à-dire 3 semaines après la rentrée scolaire? Non. Moi, je considère que c'est non seulement en retard, c'est en retard. Alors, aujourd'hui, la ministre de l'Éducation doit avoir son protocole d'urgence de prêt. Est-ce que oui ou non, on informe tous les parents de la classe ou de l'école si jamais il y a un enfant qui est contaminé? Est-ce que oui ou non, est-ce qu'on fait tester tous les enfants dès lors qu'il y a un enfant qui est contaminé? Est-ce que oui ou non, le masque est obligatoire lorsqu'on circule dans l'école? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des stations pour laver les mains, comme qu'on le voit à l'épicerie? Ça, c'est des questions que nous, on a posées, mais on a aussi fait des propos. Position, M. Mongrain, je vous en donne une par exemple. On sait tous, là, on a parlé avec différents experts de presque toutes les universités du Québec, ils sont unanimes, il y a des retards qui se sont accumulés, particulièrement pour les jeunes enfants du secondaire.
En difficulté aussi.
Et aussi en difficulté, les écarts se sont creusés. On a demandé qu'il y ait des cours de rattrapage à faire dès la rentrée scolaire. On attend encore la réponse du ministre à cet effet. C'est pas normal. Mais... Et c'est pas vrai qu'on va laisser encore les parents gérer la formation à distance alors qu'eux autres mêmes sont en télétravail.
Permettez-moi un instant. Pour vous permettre de reprendre votre souffle.
Oui.
Parce que j'ai dit, moi, je vais recevoir tantôt Marois Risky, puis là, j'espère qu'elle respire aux virgules. Elle.
Pas vraiment, je parle très vite.
Oui.
Hein.
Oui, c'est ça. Dites-moi, je pense pas que le gouvernement soit de mauvaise foi et que le ministre de l'Éducation soit de mauvaise foi, mais sa note de passage, à mon point de vue, si j'avais à l'évaluer à ce moment-ci, elle est assez faible. Lui-ci aurait besoin peut-être des cours de rattrapage parce que ma réalité à moi, quand je regarde ça comme parent, je me mets à la place de parent, je n'ai pas d'informations qui a filtré vers moi de façon régulière. L'information a été donnée probablement aux gens de l'administration des écoles, parce qu'il est ministre de l'Éducation, mais il est ministre aussi des enfants qui vont à l'école et des parents qui ont à encadrer et soutenir ces enfants-là. J'ai rien vu en cela.
Bien, les directions d'école non plus ont rien vu. Je connais pas sa note de passage. Par contre, je sais une chose. Le premier ministre Legault est revenu en politique pour l'éducation. C'est sa priorité. Et lorsque le premier ministre vous fait une démotion en vous enlevant l'enseignement supérieur et dit « Concentre-toi juste sur le ministère de l'Éducation, s'il te plaît », il semble que tu es supposé d'entendre le message du premier ministre et comprendre que oui, l'été s'en vient, mais la pandémie n'a pas pris de vacances. Alors toi non plus, tant si longtemps que ton plan n'est pas déposé, tu n'as pas le droit de prendre des vacances parce que les parents sont anxieux, parce que les enseignants ont des questions, parce que les directions d'école veulent des réponses.
Je pourrais interpréter ça différemment, Mme Risky. Ce n'est pas une démotion d'enlever les choses supérieures, c'est une priorité qui est le secondaire et le collégial. Donc, consacre-toi à ça parce que c'est plus important. Ce n'est pas nécessairement une démotion. Je comprends que politiquement, on essaye de dire, dans le langage des ministres et de la politique, que si on t'enlève une responsabilité, c'est que tu ne l'as pas bien rendue. Mais la réalité, ça peut être pour prioriser justement l'école secondaire et collégiale.
Écoutez, personnellement, là, moi, si jamais on m'enlève un de mes dossiers, je comprends qu'on est en train de me dire que j'en ai trop puis j'ai peut-être pas su m'adapter et prioriser. Maintenant, s'il n'a qu'un seul dossier, c'est le ministère de l'Éducation, il doit faire preuve de leadership. Il ne peut pas donner un délai aussi important, par exemple le 15 septembre, pour déposer un protocole d'urgence. Ça fait aucun sens.
Je vous l'accorde.
C'est lui qui donne le temps. C'est lui qui doit donner le tempo, là. Et si lui se traîne les pieds dans ses dossiers, mais ça fait en sorte que tout le monde est en attente. Je pose une question que les enseignants m'ont posée. Si on a un enseignant qui, dans sa famille proche, là, par exemple son enfant immunosupprimé, est-ce que oui ou non il a le droit de refus de travail? C'est encore en discussion parce qu'il y a des interprétations différentes. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de nous dire quel est le plan de match, par exemple, si on a un élève qui est immunosupprimé. Est-ce que lui va avoir une attention particulière parce que probablement qu'il ne pourra pas retourner à l'école en septembre? Ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'est pas retourné à l'école. Alors, est-ce qu'il va avoir de l'aide précise? Est-ce qu'on a de l'aide additionnelle? Je vous donne un exemple. Pourquoi que l'Angleterre sont capables de mettre 1 milliard additionnel en éducation, puis nous, au Québec, on comprend pas qu'effectivement, ça va nous prendre de l'aide supplémentaire, des orthophonistes, des orthopédagogues, et malheureusement, le public en a pas assez. Alors, pourquoi on va pas chercher ceux qui sont dans le privé? Puis, j'en ai un autre exemple encore. On a proposé, pour s'assurer que autant les élèves du secondaire 4 et 5 retournent à 100% à l'école, on s'est dit, OK, on comprend qu'il manque d'espace, on comprend qu'il manque des enseignants. Parfait. En ce moment, là, ça ne se rue pas vers les musées ni dans les sacs de, des salles de spectacle. Est-ce qu'on peut, par exemple, réquisitionner ces magnifiques lieux, les réaménager et demander à nos brillants étudiants en éducation et adaptation scolaire, bien, eux, de venir nous prêter main forte parce que dans leur cursus scolaire universitaire, ils ont des stages à faire. On peut devancer certains stages puis s'assurer qu'eux vont être dans ces classes où est-ce qu'il y aura, oui, effectivement, de la formation qui sera donnée à des plus petits groupes avec d'autres espaces. Est-ce qu'on est capable de réellement reprendre le titre du ministre de l'Éducation, réinventer l'école?
Dites-moi, si on se retrouve avec un calendrier scolaire qui doit débuter, je pense, autour de quoi? La fête du
25 août pour le primaire.
C'est ça.
Et secondaire, c'est dès la première semaine de septembre.
C'est ça. Alors, 25 août, là, on s'entend, c'est dans 24 jours. C'est vite, ça, là, pour installer véritablement tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que, puis je vais demander aux gens tantôt de m'appeler du domaine scolaire, des enseignants, etc., pour dire, est-ce que vous êtes prêts vraiment à accueillir à 20 jours, 24 jours de la place? Là, c'est 20 jours ouvrables à peu près. Honnêtement, moi, je pense que notre gouvernement est en retard pour l'information en cette matière-là. L'organisation, je ne sais pas, je ne suis pas là, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que vous avez des informations qui vous laissent croire que les écoles ne seraient pas prêtes d'ici au 25?
Moi, j'ai plusieurs enseignants qui m'ont écrit. Eux, effectivement, ils me disent que non, leur école n'est pas prête et que, par exemple, si jamais nous devons basculer en mode hybride, c'est-à-dire enseignement en présence physique ainsi que formation à distance, on va avoir encore le même problème au niveau de l'équipement électronique, donc les fameuses tablettes qui sont presque jamais arrivées dans les écoles secondaires.
Ben oui, ben oui.
Alors, on en a juste commandé 15 000 dans la première vague. Ça, c'était au début. Mais là, maintenant, il faut vraiment s'assurer qu'elles seront livrées à temps. Et là-dessus, malheureusement, le ministère de l'Éducation a pas vraiment un portrait très global de où sont les besoins. Parce qu'il faut savoir que oui, par exemple, à Montréal, c'est vrai qu'on a Internet haute vitesse, mais c'est pas toutes les familles qui ont d'équipements électroniques à la maison. Alors que, ailleurs en région, c'est l'inverse. C'est que peut-être, des fois, il n'y a même pas Internet haute vitesse. Alors là, c'est là qu'on a vraiment besoin des tablettes qui sont déjà branchées à la LTE et de s'assurer que ce sera déployé. Et j'ai aussi un autre enjeu que j'aimerais que le ministre de l'Éducation se saisisse dès maintenant. Il y a à peu près 3 semaines, il y avait un article qui disait la chose suivante, c'est que plusieurs enseignants désiraient prendre une retraite anticipée. J'aimerais vraiment dès maintenant savoir...
Qui?
Et d'autre part, sommes-nous en mesure d'avoir des incitatifs pour dire « nous avons besoin de vous ». Vraiment, on a vraiment besoin de vous. Puis on comprend tous que la COVID-19, ça a été la crise du Sunday, mais on a besoin de ce dernier effort et des 2-3 années supplémentaires que vous êtes capables de nous donner, s'il vous plaît, pour l'amour des enfants, pour l'amour de l'éducation. On sait que c'est difficile, mais on a vraiment besoin de vous. Et que oui, des fois, le bateau d'éducation n'est pas facile à naviguer. Puis des fois, oui, il y a des grosses vagues, mais on vous demande de vous accrocher parce que les enfants ont vraiment besoin d'avoir un enseignant qui est tout le temps là, et non pas là, vraiment, comme qu'on l'a vu dans certaines classes, un jeu de chaise musicale à chaque mois, un nouveau enseignant remplaçant mois en mois. Ça manque de stabilité pour les enfants.
Madame Risky, merci beaucoup. Vous êtes députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Je pense que votre point a été très bien placé et très bien fait. Nous sommes toujours en attente, nous, de réaction du ministère de l'Éducation. J'espère que ça viendra, mais peut-être que le silence est leur meilleur argument à ce moment-ci. Merci beaucoup, Mme Risky.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Je trouve ça incroyable qu'à un mois d'une rentrée scolaire, on ne soit pas capable d'avoir des précisions alors qu'on dit qu'on reste figé sur le plan de juin dernier. Les choses ont changé. Et quand on me dit au gouvernement que c'est la santé publique qui donne les grandes pistes pour que les décisions se prennent politiquement, bien là, je vous le dis, là, ils sont en vacances, on a tenté de rejoindre la santé publique. On va avoir un monsieur que je connais qui s'occupe de la santé publique en Estrie. C'est l'air être lui qui assure la garde pendant que Arruda et les autres sont en vacances. Je trouve ça, honnêtement, je le disais en début de semaine, je pense qu'on est un peu laissé pour compte. Je ne veux pas me faire écœurer par des statistiques. Je veux savoir où c'est qu'on s'en va. Et je pense qu'il y a des questions qui se posent à 3 semaines, 1 mois d'une rentrée scolaire et ou dans d'autres secteurs d'activité pour, par exemple, le retour au travail. Alors que l'on apprend qu'il y a un Québécois sur 5 qui serait prêt à rentrer au travail malgré qu'il puisse avoir lui-même des signes de pandémie, des signes de la COVID. C'est un peu particulier. Retour de la pause, j'attends vos appels sur ça. Est-ce que vous êtes parent? Et à titre de parent, est-ce que vous vous sentez un peu dans le vide et laissé pour compte dans la préparation académique de votre enfant pour son retour à l'école? Vous faites le 514-790-9850 pour la grande région de Montréal. Et si vous êtes un enseignant, également, je veux savoir si vous vous sentez prêt à accueillir dans les conditions de juin dernier, si elles sont déjà intégrées chez vous dans votre préparation ou s'il y a des modifications qui aujourd'hui seraient nécessaires et dont vous êtes conscient, pour lesquelles, en tout cas, vous vous inquiétez. Le 1-866-790-9850, c'est pour les gens qui sont de l'extérieur de Montréal. On s'arrête pour une pause et je vous écoute tout de suite après.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PN.
Et nous allons sans plus tarder au téléphone. On parle à Nathalie. Bonjour, madame.
Bonjour, M. Mongrain. Ça va bien?
Bien, merci. Vous-même?
Ah, ça va. Un peu anxieuse, mais ça va.
Pourquoi anxieuse? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Chez nous, moi, je suis enseignante au secondaire. Mon mari est enseignant au primaire et j'ai 2 enfants qui vont dans 2 écoles primaires différentes en plus. Donc, il y a 4 écoles.
Je suis content que vous m'appeliez. Vous, là, vous avez tous les angles de la problématique dans les mains, là.
Oui, mais puis aussi, j'ai des parents, des amis qui nous envoient des messages, qui nous demandent, puis qu'est-ce qui se passe, comment que ça va se passer, la rentrée.
Le savez-vous?
Et nous, on n'a aucune information.
Voyons, vous enseignez dans quelle place? Là? Je veux pas savoir l'école. Je veux savoir.
Moi, je suis dans l'ouest de l'île. Okay. Moi, je suis à une commission scolaire anglophone.
OK.
Tandis que mes enfants vont à la commission scolaire francophone. Le seul signal qu'on a eu, c'est au niveau de l'école de mes enfants. On nous envoyait un message qui nous disait, en gros, ben, arrangez-vous pour transporter vos enfants à l'école parce que le service scolaire de transport scolaire, ça sera pas possible, ça va être difficile, blablabla. Bla, bla. Le problème avec ça, c'est que déjà là, c'est un problème. Parce
ben oui,
que si
vous êtes
on
déjà
a
à l'école, 3... vous, pour enseigner.
Bien, c'est ça. Ça, c'est un. Et deux, s'il y a 300, 400 parents qui se pointent à l'école pour tout dropper leurs enfants à l'école, on va avoir des gros problèmes de sécurité pour les enfants.
Il va y avoir des bouchons de circulation à l'entrée de l'école.
Et voilà. Donc ça, c'est une petite partie du problème. On n'a même pas encore discuté de nous, les enseignants, qu'est-ce qu'on va avoir comme protection. Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Moi, j'enseigne en secondaire 1, secondaire 4. Qui va être en classe? Qui ne sera pas en classe?
Avez-vous,
on n'a aucune idée.
Avez-vous eu au moins le plan de la rentrée scolaire qui a été fait en juin?
Oui, mais si vous regardez en haut du plan de la rentrée scolaire, moi, j'ai regardé les papiers de la FAE parce que du côté de notre syndicat, ça a été plus ou moins réussi comme communication.
Okay.
Donc, je suis allée voir du côté de la FAE. Et en haut de leur communiqué, c'est marqué selon les guidelines, passez-moi l'expression,
oui,
de la santé publique. Et ça dit qu'il faut que le R0, le RO, soit en bas de 1.
Inférieur ou égal à 1, oui.
Et voilà. Et que le taux d'infection soit à la baisse, le nombre de cas soit à la baisse ou maintenu stable.
Ouais.
Donc, ce plan-là vient de passer par la fenêtre, là.
J'ai comme l'impression, parce qu'on dénote et on dénombre chez des clientèles plus jeunes, donc d'âge scolaire, des cas, et on ajoute à cela que chez encore plus jeunes, il y aurait une virulence, une charge virale très importante chez les jeunes, contrairement à ce qu'on pensait initialement.
Et là, on commence à voir, nous, on n'arrête pas de nous dire chez les enfants, c'est moins grave, tout ça, mais on commence à voir que les gens qui ont cette maladie-là ont des séquelles à long terme, même s'ils ne présentent pas de symptômes aigus au moment où ils ont la maladie. Donc, nous, en tant qu'enseignants, ça nous fait peur parce que si on attrape ça, ça va être quoi les conséquences à long terme? Puis là, ça va être à nous aussi de trouver qu'on a attrapé ça au travail.
Vous, là, votre mari enseigne au primaire.
Oui.
OK. Au primaire, là, le souvenir que j'ai de quand j'étais au primaire, c'était le fun quand la maîtresse d'école, elle venait m'expliquer comment faire un A, un B, pas le mêler avec un D, puis etc. Elle était à côté de moi. Là, il faut que vous qu'il maintienne 1,50 m.
Oui.
Comment est-ce que ça se fait, ça, dans une classe?
C'est impossible à faire. Eux, à leur école, ils ont fait les calculs pour savoir combien d'élèves rentreraient dans une classe.
Oui.
D'après les directives qu'ils avaient reçues au mois de juin, il y a 12 élèves qui rentraient dans une classe.
Puis d'habitude, il y en a quoi, 26?
Il y en a 20 à 26 dans une classe.
De 20 à 26 dans une classe. Donc, il faut surmultiplier les locaux, puis il faut trouver des profs.
Puis nous, en secondaire 1 et 2, ils sont supposés être à l'école à temps plein à l'automne.
Ouais.
Si on suit ces directives-là, moi, j'ai des classes de 30-35 élèves. Comment est-ce que je fais pour faire des bulles de 6 élèves qui sont à 1 mètre de distance et que moi, je garde un 2 mètres? C'est impossible.
Mais savez-vous, si la réponse que je peux vous donner, c'est celle que le ministère nous donne à ce moment-ci. Écoutez-moi bien, là, je vous donne la réponse.
Oui.
Avez-vous entendu quelque chose?
C'est ça.
C'est le grand silence complet, c'est la merveilleuse communication au ministère de l'Éducation. Merci de votre analyse,
oui,
Nathalie.
Juste une petite chose, on demande, habituellement, quand on prépare des vacances, vous et moi, on prépare quelque chose, on prend plus que 15 jours pour préparer ce qui se passe.
Je pense que
là,
oui.
On parle de l'avenir de nos enfants, puis de la santé des enseignants, puis on va prendre 15 jours, à partir du 15 juin, quand les directions vont revenir, pour faire ce plan-là.
Du 15 août? Du 15 août?
Oui.
C'est incroyable. Ouais. C'est assez précipité, disons, comme façon d'opérer. Merci, Nathalie. Ouais. On s'en va à Stéphanie, c'est tout ça? C'est Stéphanie qui est là.
Bonjour.
Oui. Bonjour, Stéphanie.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que je porte deux chapeaux présentement. Je suis la mère d'un enfant qui est asthmatique, donc qui est considéré comme à risque.
Ben oui.
Puis je suis aussi surtout une enseignante en adaptation scolaire avec des élèves autistes. Donc, on s'entend que j'ai essayé de faire l'enseignement à distance. Ouais. C'est pas très efficace. Puis, c'était des élèves que je connaissais. Donc, c'est sûr que si on parle d'enseignement à distance, ça va être impossible avec des élèves que j'ai pas de lien. Et puis, il y a tellement de questions qui sont sans réponse présentement qu'on aimerait savoir les détails. On a besoin de plus qu'un apprend. Comment les élèves vont arriver? Est-ce qu'on doit porter des masques? Est-ce qu'eux autres devront porter des masques? Il y a plein de petits détails comme ça que on le sait pas. Puis, c'est pas normal qu'on le sache pas un mois avant le début de la rentrée.
Mais vous avez entièrement raison. Et je pense que ce que je veux bien préciser ici, c'est que votre préoccupation est une préoccupation professionnelle et individuelle pour rendre un service essentiel, l'éducation de nos jeunes, même ceux qui sont en difficulté ou qui ont un cheminement particulier. Et ça, c'est pas une affaire syndicale, là. Je comprends que c'est pas un mouvement syndical de résistance à des nouvelles façons de faire. C'est vraiment une préoccupation vocationnelle comme enseignante.
Oui, tout à fait. Puis on a aussi des familles derrière ça, que c'est des familles qui sont à risque. C'est des parents qui sont épuisés avec le temps. C'est sûr que c'est des enfants qui ont des problématiques, qui ont des comportements. On a beau essayer de les aider à distance, mais c'est difficile. Être toujours, puis le soutien est plus difficile quand ils sont à l'école. On peut les aider, on peut leur offrir du soutien direct, des outils qu'on envoie, mais là, c'est malheureusement pas possible. Puis ça aussi, il faut pas l'oublier, les familles, derrière ça, c'est difficile pour ces parents-là. Puis pour nos élèves, ils ont besoin d'être en présentiel, ils ont besoin, puis les bulles, c'est pas possible. On
Merci.
Va se dire.
Merci, Stéphanie. Ben, les bulles, c'est la mode là, au hockey, c'est la mode au basketball. On fait des bulles, c'est ça. Je pense qu'on va se péter la bulle très bientôt. Merci, Stéphanie. On vit pas dans une bulle, tu sais. Je veux dire, on vit dans le concret et ces gens-là vont avoir à enseigner à nos enfants. On parle à Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour, M. Mongrain. Ça va bien?
Bien, merci. Vous-même.
Ouais, premièrement, c'est vraiment un plaisir de vous réentendre. Puis Mongrain PM, ça fait Mongrain Premier ministre. Je verrais ça, c'est m'admet l'appel politicien, m'admet la chose politique vous appelle.
Moi, vous dire de quoi? Si vous m'aimez, ne me souhaitez pas ça.
Ah, c'est pas vous souhaitez ça, c'est souhaiter ça à tout le Québec, mais c'est vrai que c'est lourd ses épaules.
Ouais. Allez-y, je vous écoute. Bon, c'est gentil.
Je vais faire un peu mon erreur d'estrade, parce que je suis moins qualifié que les interlocuteurs précédents pour parler, mais J'ai une couple de pistes que je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas été vers là. Genre, premièrement, toutes les élèves qui sont en train d'étudier pour devenir prof, pourquoi qu'on leur dit pas, ben cette année, votre année, elle va être commuée en stage pour l'année complète, puis vous allez devenir chargé de prof pour des élèves de primaire, secondaire.
Mais vous êtes peut-être Laurent d'Estrade, mais vous connaissez la game, parce que Mme Risky, qui est justement en matière d'éducation de l'opposition officielle, la porte-parole, c'est ce qu'elle nous a suggéré. Elle dit, on a des étudiants qui sont à cheminement d'apprentissage scolaire en pédagogie, ils pourraient faire leur stage et aider à soutenir le corps et la cohorte d'enseignants pour répondre à la distanciation, pour répondre à ce que ça entraîne comme problème.
Plus que ça, même, c'est que ça l'adapterait, ça donnerait en plus à leur formation ce qui manque, c'est-à-dire le vrai contact, le vrai...
L'expérience
la vraie
sur le terrain.
Game, là. Oui. C'est bien beau apprendre à l'école puis faire de la théorie, mais être prof, c'est pas de la théorie. Être prof, c'est avoir de la patience pour endurer une vingtaine de petits monstres à l'année longue puis construire de quoi de cool avec eux autres puis qu'ils ne tapent pas trop ses nerfs. Là.
Semblait avoir l'expérience. Et tu y vois un petit monstre à l'école?
Non. Je suis un petit intimidé en fait, mais je ne rentrerai pas dans ça.
Non.
Mais deuxième piste de solution... Ouais. Il faudrait peut-être prévoir tout de suite à l'avance, disons, mettons, tous les lundis pour les 2-3 premiers mois, journée pédagogique. Fait comme ça laisse une journée par semaine aux profs pour commencer à préparer des capsules qu'ils seraient obligés de faire dans ce temps-là.
Et je pense pas que ça nuirait à l'apprentissage parce que 182 jours d'école avec les journées de neige, les journées de ci, les journées de tempête.
Exactement. Toutes les journées pédagogiques, on les enlève toutes, puis on les remet toutes sur un lundi par semaine. Puis même quitte à enlever des fériés. Puis comme ça, ça donnerait une journée par semaine à préparer des capsules d'avance pour s'il y a une grosse deuxième vague ou si on est obligé de retourner ou whatever. Ben si tu leur donnes une journée par semaine pour qu'ils puissent préparer ces capsules-là, puis qu'en plus, tu peux, s'il y a assez d'élèves à l'enseignement pour en donner au moins un par deux profs, tu peux demander à ces élèves-là à la longue de faire aussi une journée de cours par semaine.
C'est intéressant.
Puis,
en tout cas, tu vois que quand on sollicite un peu l'originalité, on peut trouver des solutions. Le temps file. Michel, merci beaucoup. Bye-bye. Bon week-end. On parle à Nathalie maintenant. Oui, bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Bonjour. Allez-y.
Oui, moi, ce que je déplore un petit peu, c'est le stress que ça nous occasionne, dans le sens que, voilà deux semaines, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. La commission scolaire nous a envoyé un sondage à répondre en ligne. Bon, est-ce qu'on transporte notre enfant? Est-ce qu'on le transporte pas? Parce qu'il n'y aura pas assez de chauffeurs puis il n'y aura pas assez d'autobus pour transporter nos enfants. Moi, je veux faire le choix d'envoyer mon enfant dans l'autobus, mais il va devoir porter le couvre-visage et tout ça. Mais j'ai toujours pas de réponse à cet effet-là. Fait qu'on est toujours dans le néant, savoir est-ce qu'on va avoir un transport scolaire ou pas. Est-ce qu'on va devoir s'organiser à la dernière minute, à une semaine de la rentrée scolaire pour se trouver un grand-papa, une grand-maman, nous organiser notre horaire de travail pour transporter les enfants à l'école?
Je veux juste confirmer ce que vous venez de me dire, là, pour voir si j'ai bien compris. Vous avez reçu une note de la commission scolaire disant que le transport scolaire serait pas disponible?
Il serait disponible, mais pas pour tout le monde.
Mais comment est-ce qu'on décide? Là? C'est toi t'embarques, toi t'embarques pas. Là,
c'est ce qu'on ne sait pas.
C'est formidable. C'est assez important, par exemple, comme deuxième... Tu sais, la sous-question est presque plus importante que la première. Une fois qu'ils disent qu'on n'a pas assez de place, ouais, OK, d'accord, c'est à qui la place?
C'est ce qu'on ne sait pas encore. T'sais, est-ce qu'ils vont favoriser certains secteurs? Est-ce qu'ils vont favoriser... Je ne sais pas du tout. Puis l'autre problématique qu'on a vécue, moi j'ai eu un élève, mon garçon, il a eu des difficultés scolaires avec les cours en ligne et tout ça. Il n'a pas eu de cheminement de fait. Il a échoué deux matières. On est obligé de payer des cours d'été en ligne, qui n'est toujours pas aussi efficace. Puis on ne sait toujours pas encore s'il a réussi son année scolaire ou pas. Fait que le fardeau est beaucoup donné aux parents qui, eux aussi, doivent gérer l'école à la maison, le travail, le télétravail. Je trouve qu'à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de m'en demander aux citoyens là, à cet effet-là.
Merci de votre témoignage. Ça soulève évidemment énormément de points d'intérêt que l'on ne soupçonne pas, j'ai l'impression, lorsqu'on est assis dans un bureau à Québec et que l'on pense avoir les solutions parce que nous avons le pouvoir. Merci, madame. On s'arrête pour une pause.